Et maintenant, 18h30 en temps universel, vous écoutez RFI.
Afrique Soir.
Voici une nouvelle demi-heure d'information en compagnie de Zéphirin Kouadio. Bonsoir à vous.
Bonsoir Philippe Le Caplan, bonsoir à toutes et à tous. À la une, reprise des combats dans l'est de la République démocratique du Congo, combat qui oppose l'armée appuyée par ses alliés et le M23 soutenu par des militaires rwandais. Un conseil de défense s'est tenu à Kinshasa ce vendredi. Au Burkina Faso, le parti Sens demande la libération de son leader Guy Hervé Kahn. Le célèbre avocat et président du parti est en détention depuis un an dans une prison militaire de Ouagadougou, la capitale. Nouvel appel à un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Dans un communiqué, les partis signataires demandent la tenue d'élections pour mettre un terme à la période de transition. Et puis au Sénégal, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire d'un député d'opposition. Une levée de l'immunité parlementaire de ce proche de l'ancien président Macky Sall à l'issue d'une plénière très agitée. Les combats ont donc repris ce matin dans l'est de la République démocratique du Congo. Combat entre l'armée appuyée par ses alliés et le M23 soutenu par des militaires rwandais. Depuis hier, les affrontements se sont concentrés dans les environs de Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Et depuis ce matin, il y a aussi des combats au nord de la capitale provinciale. Bonsoir Pauline Azidi.
Bonsoir.
Un conseil de défense s'est tenu à Kinshasa ce vendredi, conseil au cours duquel la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu a été officialisée.
Oui, le général-major Peter Chirimwami, officier de FARDC et actuel gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, est mort des suites de ses blessures. En fait, il a été touché hier alors qu'il s'était déplacé vers la ligne de front à l'ouest de Goma. Blessure sérieuse, prise en charge d'abord à Goma, puis il a été transféré dans la nuit vers Kinshasa. Des rumeurs sur son état de santé ont circulé une partie de la journée avant cette annonce officielle du porte-parole des forces militaires. Les honneurs lui seront rendus lors d'obsèques nationales à Kinshasa, a déclaré le général Ekenge. C'est le président Tshisekedi, rentré hier soir tard de Davos en Suisse, qui a convoqué ce conseil de défense consacré à la situation autour de Goma. Ce soir, il doit présider le conseil des ministres qui a lieu chaque vendredi, un conseil auquel n'assistera pas la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Wagner. Elle est arrivée aujourd'hui à New York pour saisir le conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il se réunisse en urgence pour évoquer la crise dans son pays, demande appuyée par la France, membre permanent du Conseil.
Et ce vendredi, Pauline Azidi, les affrontements se sont déroulés également sur deux fronts à une vingtaine de kilomètres chacun de Goma.
Oui, vous le disiez, vers Sake à l'ouest, où de violents combats ont déjà eu lieu hier, une position tenue avec les forces de la MONUSCO, la mission onusienne, et celle de la SADC, la communauté d'Afrique australe. Des hélicoptères de l'armée congolaise sont intervenus. Combat aussi à Kibumba, situé au nord de la capitale provinciale. Affrontement violent, mais le verrou est solide, confie une source sécuritaire congolaise. Ces affrontements au nord ont endommagé une ligne électrique importante pour la ville de Goma, celle qui transporte le courant depuis la centrale de Matebe dans le Rutshuru, et la société exploitante Virunga Energy a annoncé que les réparations ne pourront débuter que lorsque les conditions sécuritaires le permettront. Mercredi, c'est une autre ligne qui alimente Goma qui avait été endommagée dans les combats au sud Kivu. Face à la tension sécuritaire, plusieurs ambassades ont émis des avis à l'intention de leurs ressortissants, les ambassades américaines et françaises en République démocratique du Congo et le ministère des Affaires étrangères britanniques ont appelé leurs ressortissants à quitter la ville tant que les aéroports et les frontières sont encore ouverts.
Merci Pauline Azidi en direct de Kinshasa. Je rappelle que dans un communiqué ce soir, la MONUSCO assure continuer d'apporter son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. La mission de l'ONU dit que ces forces ont été activement engagées dans des combats intenses. 5 casques bleus ont été blessés ce vendredi. 4 ont subi des blessures mineures hier jeudi. La MONUSCO réitère l'appel du secrétaire général au M23 pour qu'il cesse immédiatement son offensive et se retire de toutes les zones occupées. Au au Burkina Faso. Cela fait une année aujourd'hui que Maître Guy-Hervé Kam est en détention dans une prison militaire de Ouagadougou, la capitale. Maître Kam avait été arrêté une première fois dans la nuit du 24 au 25 janvier 2024 à l'aéroport de Ouagadougou par des hommes en tenue civile, puis détenu dans les locaux de la Sûreté d'État pendant 4 mois, libéré le 29 mai, puis de nouveau arrêté le lendemain et inculpé pour complot et association de malfaiteurs, libéré, placé sous contrôle judiciaire le 10 juillet. Il est ensuite interpellé, puis écroué à la prison militaire pour les mêmes raisons. Maître Guy-Hervé Kam est un célèbre avocat burkinabé, aussi chef du mouvement politique Sens, autrement dit servir et non se servir. Le mouvement dénonce une détention qu'il qualifie d'illégale et appelle à la libération de son leader. Soporeka Sommé, le secrétaire national du Sens, chargé de la diaspora, des relations extérieures et du panafricanisme.
Ça fait un an que notre coordinateur national a été enlevé, je dis bien enlevé, c'est le terme que les avocats utilisaient. Depuis cette date jusqu'à maintenant, il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'éléments qui montrent qu'il a organisé ou qu'il a participé à un complot avec une association de malfaiteurs pour déstabiliser les institutions. Les avocats disent qu'il n'y a rien dans le dossier, ce sont eux qui ont accès au dossier. Donc s'il n'y a rien, comment peut-on faire un procès? Et je pense que c'est ça la raison pour laquelle on est dans cette situation de blocage. Donc, quelqu'un est capable de débloquer cette situation. C'est le président du Burkina actuel et c'est à lui que nous nous adressons. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il est le président de tous les Burkinabés et il doit veiller à ce que les lois du pays soient respectées. Si un citoyen n'a rien fait, il n'a rien à faire en prison pendant un an. Et s'il a fait quelque chose, ben, qu'un procès ait lieu, de préférence publique, pour que tout le monde puisse connaître les faits et qu'on tourne la page.
Un propos recueilli par Abdoulaye Diko. Et puis au Mali, les partis politiques Yelema, Adema, Parena, M5, RFP, Malikoura et d'autres formations lancent un nouvel appel aux autorités de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Dans un communiqué daté du 22 janvier, ces formations demandent la mise en place d'un calendrier électoral clair et expriment leurs inquiétudes. Les précisions de David Baché.
Cela fait 4 ans et demi que l'essentiel de la classe politique malienne demande la tenue d'élections pour mettre un terme à la période de transition. Dans ce dernier communiqué, les partis signataires s'inquiètent notamment du fait que dans son discours à la Nation du 31 décembre dernier, le président de transition, le général Assimi Goïta, ne fasse à aucun moment référence à la tenue de ces élections, qui ont déjà été repoussées à plusieurs reprises. Depuis le dernier report annoncé en septembre 2023, le peuple est délibérément maintenu dans le flou, note les partis signataires, qui demandent l'organisation dans les meilleurs délais d'un cadre de concertation entre le gouvernement et la classe politique et la fixation d'un chronogramme détaillé et précis vers les élections avant la fin du premier trimestre 2025. Les partis demandent également aux autorités de transition de garantir le respect des libertés démocratiques et de l'état de droit, de libérer les prisonniers d'opinion, de permettre le retour des exilés politiques et de mettre fin aux arrestations arbitraires et aux disparitions forcées. Pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel, les partis signataires useront, écrivent-elles, de tous les moyens légaux.
Et pour aller plus loin, écoutons à présent Youssouf Diawara, le président de Yelema, le parti de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Yelema, l'un des partis politiques justement signataires de ce nouvel appel. Youssouf Diawara était l'invité d'Afrique Midi au micro de Nicolas Sûr.
Ça fait 4 années que nous avons demandé d'évoluer de façon sereine dans la transition et aussi de sortir par le haut de cette transition. Et nous avons toujours demandé de façon formelle qu'on puisse travailler à créer un cadre de concertation inclusif pour qu'ensemble on puisse définir les orientations et nous permettre de sortir. Vous avez dû certainement constater qu'il y a eu une série de reports, indépendamment de nous d'ailleurs, et fixés et repris par les autorités. Quand on se fixe des objectifs et qu'on ne les atteint pas, il va de soi qu'on continue à réclamer. Donc, je trouve normal qu'après 2 prolongations et 1 sans limite d'ailleurs, il serait important pour nous en tant que parti politique de demander à nos autorités qu'on fixe un peu le cap aussi pour sortir dans une transition qui ne fait que trop durer.
Vous avez été étonné que le président de la transition, le général Assimi Goïta, ne fasse pas allusion à ces élections futures dans son discours du Nouvel An ?
Oui, bien sûr. Quand le premier responsable n'en fait pas cas, ce n'est pas rassurant.
Il y a tout de même une loi de finances qui a été adoptée en décembre et qui prévoit un budget pour l'organisation des élections ?
Oui, quelque chose que nous avons d'ailleurs salué, le fait de voir le budget des élections inscrit dans la loi des finances. et également la démarche du nouveau Premier ministre de rencontrer la classe politique. C'est des avancées que nous avons saluées. Mais quand le discours du président n'en fait pas cas, c'est inquiétant. Et vraiment, dans nos recommandations, nous avons vraiment demandé qu'on puisse nous donner un calendrier clair, un calendrier précis et consensuel pour nous permettre de savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude totale.
Et de communiquer urgemment sur ce calendrier.
Tout à fait.
Les autorités de transition ont toujours dit qu'elles comptaient organiser les élections, mais qu'elles le feraient quand les conditions, notamment sécuritaires, seraient réunies. Vous y croyez?
Je pense qu'on a fait les référendums au pays, quoi. Plus complexe qu'une élection présidentielle. Je ne sais pas, entre-temps, qu'est-ce qui a évolué. C'est aussi important qu'on nous donne aussi les informations. Est-ce que la situation sécuritaire s'est détériorée d'ici là? Ils sont les mieux placés aussi pour nous donner ces détails d'informations. Et ce que nous nous entendons, c'est que vraiment il y a une évolution nette de la situation sécuritaire. Et si la situation sécuritaire a bien évolué du moment du référendum à aujourd'hui, bon, je ne pense pas qu'il doit y avoir un problème de fond par rapport à cela.
Voilà Youssouf Diawara, président de Yelema, interrogé par Nicolas Sûr.
Afrique Soir sur RFI.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale a donc levé l'immunité parlementaire d'un député d'opposition. Il s'agit d'un proche de l'ex-président Macky Sall, soupçonné d'être mêlé à des irrégularités financières présumées portant sur un montant de 125 milliards de francs CFA, soit plus de 192 millions d'euros. Une levée de l'immunité parlementaire à l'issue d'une plénière agitée à l'Assemblée nationale. À Dakar, le récit de Léa-Lisa Vesteroff.
130 voix pour, 3 contre et 3 abstentions. Il aura fallu quelques minutes à peine pour lever l'immunité parlementaire du député Mouamadou Ngom. Mais dans les rangs de l'Assemblée, les parlementaires de la coalition de l'ex-président Macky Sall, tous vêtus de blanc, ont claqué la porte de l'hémicycle, boycottant ce vote, jugeant cette levée d'immunité pas assez argumentée et donc politique. À l'origine de la procédure, le parquet financier qui a ouvert une enquête sur des transactions suspectes pour un montant de 125 milliards de francs CFA et auquel le député de l'ancienne majorité présidentielle, surnommé Farban Gom, serait mêlé. Parmi les infractions présumées recensées par le parquet financier, l'association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l'escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption, le trafic d'influence ou encore l'abus de biens sociaux. Juste avant le vote, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a rappelé avoir saisi l'Assemblée nationale à la suite d'une demande du procureur de la République du pôle financier et que l'immunité parlementaire de Farban Gom était levée uniquement pour lui permettre d'être rapidement entendu par la justice. Léa-Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Au Sénégal, toujours chaque année, plus de 30 000 femmes risquent leur vie en avortant clandestinement. Interruptions de grossesse qui sont aussi l'une des principales causes de décès maternels dans le pays. Face à ce constat, et 21 ans après la ratification par le Sénégal de l'accord de Maputo, qui autorise en son article 14 l'avortement en cas d'inceste et de viol, les organisations de la société civile appellent les nouvelles autorités à respecter leurs engagements internationaux et a enfin appliqué cet accord de Maputo signé en 2004 et de légaliser l'avortement en cas de viol. Alice Baudarsar est la responsable du bureau droits des femmes et égalité de genre de la Fédération internationale pour les droits humains. On l'écoute.
Le besoin, on le voit au Sénégal avec les affaires de petites filles qui sont violées et qui doivent ensuite porter leur grossesse. Là, le cas récent de la petite fille de 9 ans qui est suivie maintenant qu'un suivi médical à Dakar pour prévoir une césarienne, ça met en danger sa vie que de l'obliger à devoir porter cette grossesse qui est issue d'un viol. Il y a un travail extraordinaire de la société civile sénégalaise depuis 10 ans sur la question et avec les nouvelles autorités, il va falloir assurer la continuité de l'État, ne pas repartir de zéro, mais bien prendre en compte tout ce qui a été fait en 10 ans par la société civile sénégalaise pour enfin pouvoir modifier la loi et respecter les engagements internationaux du Sénégal pris il y a 20 ans.
Alice Bordassa, responsable du Bureau des droits des femmes et égalité de genre de la Fédération internationale pour les droits humains. Au Mozambique, le limogeage de l'inspecteur général de la police, décision du président Daniel Chapu. Bernardino Rafael était à la tête de la police nationale depuis 2017. Il était très critiqué pour sa gestion des manifestations post-électorales de ces 3 derniers mois. Selon la société civile mozambicaine, la répression de ces manifestations a fait plus de 315 morts. Correspondance régionale, Gaëlle Lalex.
Dans son communiqué, la présidence mozambicaine ne donne aucune explication au renvoi de Bernardino Raphaël. La presse, proche de l'opposition, comme Canal Mozambique ou Savana, salue quant à elle la chute du bourreau. Durant la crise post-électorale, Bernardino Raphaël a maintenu une ligne très dure, qualifiant les manifestants de terroristes. Selon le dernier rapport de la plateforme électorale Décide, publié aujourd'hui, 90% des 315 victimes de la répression ont été tuées par des balles réelles. 730 personnes ont également été blessées par ce type de munitions. Ce renvoi intervient alors que la dépouille d'un journaliste, Arlindo Chisale, vient d'être découverte dans le nord du pays. Le rédacteur en chef de Pinnacle News, soutien de l'opposant Venancio Mondlane, avait disparu depuis le 7 janvier alors qu'il voyageait entre Pemba et Nacala. D'après le Centre pour la démocratie et les droits de l'homme, il a été aperçu pour la dernière fois dans une voiture blanche non immatriculée, accompagné de trois hommes en uniforme. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'ONG demande une enquête sur les circonstances de sa mort. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
À Madagascar, prise de fonction du maire d'Antananarive, cérémonie officielle ce matin devant les membres du gouvernement, les cadres de son parti et les diplomates. Arlal Ramanantsou, figure de la coalition présidentielle Irma, est donné vainqueur avec plus de 43% des voix face à Toudes Ravalomanane, son concurrent direct dans la capitale. Ce dernier, désigné candidat à la place de son père, l'ancien président Marc Ravalomanane, n'a cessé de contester les résultats donnés par les institutions électorales. Sa requête déposée devant les tribunaux administratifs a été rejetée. Et puis en football, début ce vendredi de la 19e journée de Ligue 1 avec un duel de seconde partie de classement. Auxerre 11e accueille le barragiste Saint-Étienne. Une nouvelle occasion pour les Bourguignons de sortir d'une série de mauvais résultats. Leur dernière victoire en championnat remontante à fin novembre, avec pour conséquence une lente et dangereuse glissade vers la zone rouge. Des Auxerrois, pas aidés par leur buteur malien, Lassine Sinayoko, en manque de réalisme avec seulement 2 buts à son compteur depuis le début de la saison. Mais il tient à raviver sa flamme pour un club qui lui est cher et où il a prolongé jusqu'en 2026. Les précisions de Babacar Diarra.
Lassine Sinayoko a le logo de la JOCR griffé sur la peau depuis 2017. Une fidélité entamée en catégorie de jeunes est rare dans le football contemporain.
Ce club-là, il m'a fait confiance. C'est les seuls qui sont venus me chercher, entre guillemets. Je me dois de leur rendre l'appareil. Et le fait que je prolonge à chaque fois, c'est comme leur rendre l'appareil, essayer de leur rendre l'appareil au maximum.
Retrouver de l'efficacité serait une belle manière de rendre à son club de cœur en panne de résultats. OCR cherche une victoire depuis novembre. Moins des 2 uniques buts inscrits par l'Aigle du Mali cette saison.
Si je mets le doute dans ma tête, c'est là que les problèmes commencent. Toute l'équipe a confiance en moi, tout le club a confiance en moi, et moi-même j'ai confiance en moi, donc à partir de là, le doute il n'est pas permis.
Dans le top 4 des équipes de Ligue 1 à la maison, la JA de Sinayoko reçoit Saint-Étienne avec son 12e homme, le stade de l'Abbé Deschamps.
Je vois aucune personne douter, donc... Quand tu ressens ça, malgré l'enchaînement de défaites, tu te dis que tu tiens le bon bout.
Un état d'esprit positif, indispensable dans cette mission maintien.
Babacar Diarra, AJOCR, AS Saint-Etienne, coup d'envoi, 19h45, temps universel. Et on part maintenant à Basongo, à 50 km au sud-ouest de Bangui, la capitale de la Centrafrique. Dans cette localité, les forgerons sont les seuls à fournir les outils indispensables aux ouvriers ou encore aux agriculteurs qui n'ont pas accès aux grandes villes du pays pour s'équiper. La spécificité de ces forgerons de Basongo, c'est que tous leurs outils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Reportage, Rolf Steve Domialeux.
En cette matinée de janvier, Hervé Elie est en pleine activité dans son atelier. Ici, il fait chaud et l'ambiance est cadencée par des coups de marteau et de masse. Vêtu de combinaisons bleues, de bottes rouges et de gants, ce forgeron de 46 ans est en train de fondre du métal avec un feu à 90 degrés. Un savoir-faire transmis au sein de sa famille.
J'ai pris la suite de mon père dans cet atelier. Il m'a appris le métier dès que j'ai eu 8 ans. Ici, nous fabriquons des arrosoirs, des haches, des couteaux et plein d'autres choses. Nous travaillons avec des objets recyclés. Il s'agit de carrosseries de voitures et de vieilles tôles.
C'est un métier difficile qui exige de l'endurance, la technique et la patience. À cause de la chaleur, Hervé Elie enlève la chemise de sa combinaison pour mieux préparer le four.
Dans ce magasin, nous stockons le bois de chauffe, notre unique source d'énergie. Une fois que le métal est bien chaud, on peut facilement lui donner la forme que l'on souhaite à l'aide de marteaux ou de masses. Nous avons appris ce métier de nos parents et nous le transmettrons à nos enfants.
Assis sur des bancs à l'entrée de la petite usine, certains clients sont venus acheter du matériel, mais d'autres sont là pour réparer leurs outils endommagés. Marc Gonedi est l'un d'eux.
Les produits qu'ils vendent ici sont abordables. Ça varie entre 2500 et 15 000 francs CFA en fonction du matériel demandé et de la matière première utilisée. Je suis cultivateur. J'ai besoin de tous ces outils pour travailler la terre.
Torse nu, marteau en main, Gilles Fedanga n'a pas eu la chance de faire de grandes études. Âgé de 19 ans, il utilise son talent de forgeron pour gagner sa vie.
Nous avons un coffre-fort pour conserver nos recettes. À la fin du mois, chacun touche un salaire en fonction du marché. Notre principale difficulté, c'est l'accès aux matières premières. Parfois, nous avons des commandes de clients, mais c'est difficile de trouver les tôles, le métal et les fers appropriés. Même si ça nous bloque, on ne compte pas baisser les bras, car seul le travail libère l'homme. Avec l'aide de Dieu, ça ira.
Même si en République centrafricaine, ce métier se pratique de façon artisanale, ces jeunes sont remplis d'ambition. Ils souhaitent installer dans les prochaines années une usine de fabrication de matériel moderne. Rolf Estève, Domialeu, Bangui, RFI.
Il est 19h et bientôt 51 minutes à Bangui avant de refermer cette édition. Cap sur l'archipel des Comores dans l'océan Indien. Nous avons rendez-vous avec Malia Mohamed, une artiste connue pour son engagement en faveur des femmes, ses compositions afrobeat et touarab. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des figures montantes de la musique comorienne et elle a créé un festival qui s'appelle le Ngamina Power. L'événement réunit des grands noms de la chanson comorienne comme Asna, Zaza, Foudouaïla et de nouveaux talents. En reportage, Abdallah Mzambaba.
C'est sur les hauteurs de Moroni, dans la matinée, que Malha et son producteur de mari reçoivent à leur domicile. Malha, connu pour ses prestations en live, a fait de sa voix un instrument de résilience et d'espoir.
J'écris plus sur la femme comorienne, la femme africaine, la femme tout court, parce que j'ai eu un parcours qui a été très difficile depuis mon enfance. Et donc je m'inspire de ma propre vie pour pouvoir parler pour les autres. Ça parle des femmes battante, ça parle des enfants qui sont en difficulté, ça parle des femmes qui sont en difficulté, des femmes violées, des femmes en violence conjugale, tout ce qui concerne la femme.
Née dans une famille de 6 enfants, Malha a perdu ses parents très jeunes, une tragédie qui a forgé sa détermination et qui lui a servi de leitmotiv. Après un bac littéraire, elle s'envole pour l'Ouganda, puis revient aux Comores avec un master en communication et marketing. Bien que diplômée, c'est autour de ses premières amours qu'elle s'épanouit avec commission et élever la musique comorienne tout en défendant la cause des femmes.
J'ai commencé à chanter très très tôt, car je viens d'une famille d'artistes, donc j'ai baigné dans la chanson. J'ai commencé par interpréter des chansons à l'école et dans le quartier. Jusqu'à ce que j'ai eu mon bac, là j'ai commencé à chanter avec mes frères et sœurs qui étaient eux aussi des chanteurs depuis très longtemps avant moi.
Croyant profondément au pouvoir de l'art, elle a lancé le Ngamina Power Festival, un festival annuel dont cette année a été la première édition.
Pourquoi Ngamina Power Festival? Il faut savoir que Ngamina Power Festival est un festival qu'on a conçu pour mettre en avant l'artiste femme comorienne. Ngamina Power est une phrase qui m'aide moi-même à me booster. C'est une phrase qui englobe tout mon parcours, parce que comme j'ai expliqué bien avant, le parcours qui m'a été très difficile a fait que j'ai créé cette phrase pour pouvoir avancer.
Le festival a été reporté en solidarité avec Mayotte après le passage du cyclone Chido sur l'île le 14 décembre. En plus de ce report, l'artiste et son équipe prévoient d'organiser prochainement d'autres événements en soutien à Mayotte. Abdallah Mzambaba Moroni, RFI.
Sous-titrage Société Radio-Canada. No sé si llanga mi bobo. Guapo, happy. Happy, guapo. Guapo, happy. Happy, guapo. Guapo, happy. Happy, guapo. Guapo, happy. Happy, guapo. Dame la power. Power, power. Anono atawa.
La chanteuse comorienne Malia Mohamed depuis Moroni où il est actuellement 21h55. Quelques rendez-vous à noter pour la suite de la soirée sur notre antenne. À 19h10, temps universel, Ici l'Europe, coproduit par RFI et France 24. Caroline de Camaret reçoit Salomé Zourabichvili, la cinquième présidente de Géorgie, qui proteste contre le virage pro-russe du parti au pouvoir, rêve géorgien et s'inquiète des ingérences russes à travers l'Europe.
Depuis plusieurs décennies, il y a toujours eu ce que j'appelais les fraudes normales, mais là, il y a eu une fraude massive, très sophistiquée. Il y a eu des propagandistes et des spécialistes des élections qu'on a vu dans d'autres pays d'Europe centrale russe qui étaient présents depuis plusieurs mois en Géorgie.
Salomé Zourabichvili, l'ancienne présidente de la Géorgie, invitée d'Ici l'Europe. Elle a assisté à la cérémonie d'investiture du président américain Donald Trump et nous dira aussi ce qu'elle attend des Européens en accord avec les Américains dans sa région. Rendez-vous à 19h10, temps universel, et puis à 19h40, toujours en temps universel, dans Pourquoi RFI dit ça, nous revenons sur le témoignage de ce Camerounais qu'on a trompé en lui offrant un travail et qui s'est retrouvé sur le front ukrainien pour combattre aux côtés de la Russie. Diffusé la semaine dernière, l'histoire de Samuel vous a beaucoup fait réagir. Et c'est François Mazet qui a recueilli ce témoignage et il revient sur les nombreuses réactions qu'il a suscitées.
Tout ce qui a trait à la Russie crée un niveau d'engagement très important, notamment sur les réseaux sociaux. Et comme il y a des frictions franco-russes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et même avant, et bien évidemment, les auditeurs s'interrogent. Est-ce que RFI, c'est la voix de la France, donc elle fait tout pour salir la Russie ? La réponse est non.
Voilà, François Mazet dans Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval. C'est à 19h40, temps universel. Enfin, vous retrouverez à 20h10, temps universel, couleur tropicale. Claudie Ciard vous propose ce soir une émission consacrée aux nouveautés et découvertes avec Eira Star, Chili, Craig David, Admiral T et Youssoupha, entre autres. Youssoupha, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Dieu est grand et oui, Dieu est une femme pour Youssoupha.
1000 mètres à la ronde, Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Amen. N'écoute pas les peurs et les beaux parleurs moralisateurs, leur cœur est minime, ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord. On peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long. Fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons. Tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure. Le but c'est de chaque jour s'améliorer.
Dieu est grande de Youssoupha que vous pourrez réécouter bien sûr à 20h10 dans Couleur Tropicale. Ainsi s'achève cette première édition d'Afrique Soir. L'info continue sur RFI avec à suivre dans 2 minutes un nouveau journal largement consacré, celui-là, à l'actualité dans le reste du monde.
N'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade.
Géopolitique. La compétition stratégique des États-Unis avec la Chine promet d'être au centre du second mandat de Donald Trump et reste un sujet de continuité bipartisane aux États-Unis. Les Chinois appréhendent l'imprévisibilité du président américain, mais leurs réactions ne sont pas moins difficiles à prévoir. Des spécialistes nous livrent leur regard sur cette rivalité.
Géopolitique, Marie-France Latin.
Samedi, à partir de 18h40 TU.
RFI.
100% création, Maria Afonso.
100% création avec la série consacrée à la restauration de Notre-Dame de Paris. Ce dimanche, Elodie Schneider. Elle a restauré les vitraux imaginés dans les années 60 par l'artiste Jacques Le Chevalier pour Notre-Dame de Paris. Retrouvez-nous ce dimanche à 4h53, 6h54 et 12h54, temps universel, sur RFI.
l'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.